Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
Dynamique Radio, bonsoir à toutes et à tous. On est en direct de la libre antenne spéciale Love. All you need is love. Et ce soir, notre invité du soir, c'est Madame le maire, Caroline Carmentran, qui vient nous voir pour nous parler d'amour, figurez-vous. Et tout de suite, c'est Chris qui va vous la présenter. Bonsoir Chris.
Bonsoir Fred, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Madame le maire.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Madame le maire.
Vous êtes depuis 2014 maire adjoint délégué de la famille et à la petite enfance de la ville d'Asnières. Vous avez été élue conseillère régionale d'Île-de-France en 2015, puis nommée présidente de la commission famille, action sociale et handicap pour la région. Pour vous, le couple durable est un enjeu de société. Et c'est pour vos différentes initiatives autour du couple et de la prévention des ruptures que la ville d'Asnières a reçu en 2023 le prix des couples organisé par l'Alliance pour l'amour durable. Caroline Carmentran, je vous cite. « La prévention des ruptures est un angle mort des politiques publiques nationales. Alors, de votre place d'élu, quels sont les préjudices de ces ruptures et quelles en sont les conséquences sur notre société ?»
Vaste question, merci beaucoup déjà de me recevoir sur un sujet, c'est vrai, peu habituel pour une mairie, c'est vrai que ce ne sont pas dans ses prérogatives classiques, on va dire, qui sont la voirie, la sécurité, l'école, mais c'est vrai qu'à Asnières, on a fait le choix, avec le maire, Manuel Achliman, on part du principe que c'est important de soutenir la famille et en particulier le couple, puisque quand dans une ville, une famille va bien, et ben c'est toute la ville qui va bien. Dans un immeuble, si une famille va bien, c'est tout l'immeuble qui va aller bien. Et puis après, ça fait tache d'huile. Et donc nous, c'est important pour nous à Asnières, en plus des prérogatives légales, prendre soin de la famille et en particulier le couple, puisque c'est la base de la famille. Et que c'est vrai que c'est un angle mort des politiques publiques, puisque bien souvent les politiques publiques agissent après, une fois que le couple s'est séparé. Et on sait tous les conséquences d'une rupture en termes de paupérisation de la femme. Nous, à Asnières, la moitié des femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté sont des femmes seules. Donc, on sait très bien que ça paupérise la femme. On sait très bien les conséquences également sur les enfants. Il y a des études qui sont sorties sur... forcément, quand vous avez des parents qui se déchirent, se séparent, il y a des conséquences sur les enfants. Et puis, les politiques publiques agissent une fois que la séparation a eu lieu pour que ça se passe au mieux pour le couple. C'est-à-dire qu'il y a de la médiation familiale. Donc, on en fait aussi à Asnières. Et on fait en sorte que cette séparation se passe justement le mieux possible pour les enfants, pour qu'il n'y ait pas trop de dommages collatéraux. Mais en revanche, en amont, pour éviter éventuellement qu'un couple explose, rien n'est mis en place. Et donc à Asnières, on s'est dit, nous sommes sûrs qu'il y a plein de séparations qui pourraient être évitées. On vit dans un monde qui va vite, où les familles ont peu de temps pour construire leur famille. On leur demande d'être des parents parfaits, de tout gérer, le boulot, les enfants. Et finalement, le temps qu'ils ont pour construire leur famille est extrêmement réduit. Je vois moi toutes ces familles qui rentrent avec des enfants à 19h et puis qui doivent gérer après leur journée de boulot les enfants. Et donc des tensions peuvent rapidement arriver, mais des tensions qui ne méritent pas de se séparer bien souvent. Et donc si on encourage les couples à prendre du temps pour eux, à dégager du temps en disant attention, votre couple, c'est important, il faut en prendre soin. Et nous, Ville d'Asnières, on va mettre à votre disposition, alors ce soit une soirée de la des mariés, un point écoute famille avec une conseillère conjugale et familiale à disposition des Aniérois qui rencontrent des difficultés passagères, mais toute famille rencontre des difficultés, c'est pas linéaire, une famille heureusement, sinon on s'ennuierait, mais en revanche, que les familles puissent trouver des lieux, ressources, pour surmonter une difficulté passagère due à l'endormissement d'un enfant qui peut taper sur les nerfs, due à une adolescence difficile. Voilà. Et parfois, la famille, elle est bien seule face à ces problématiques, ou alors elle va sur Internet, mais elle est quand même bien seule. Et donc, nous, vraiment, ça nous tient à cœur de proposer à ces familles des lieux ressources et des moments ressources pour prendre soin de leur couple. Je dis souvent, en fait, quand vous avez une voiture, dès que votre pneu arrière droit commence à se dégonfler, vous avez un gros warning qui vous dit « Oulala, vite, votre pneu se dégonfle, allez chez le garagiste. » Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous y allez tout de suite. Alors que pour votre couple, il n'y a pas de gros warning qui vous dit « Attention, là, ça crie, ça... » Il n'y a pas de warning qui vous dit « Attention, prenez soin, prenez du temps, posez-vous. » Et donc, voilà, nous, à Anières, on a fait ce choix d'avoir des lieux ressources pour ces couples, ces familles. Et vraiment, ce qui résume notre politique familiale à Anières, c'est qu'il y ait toujours une grande sérénité dans les familles aniéroises. Donc, dès qu'on peut proposer des actions pour permettre cette sérénité, on le fait, que ce soit pour la recherche de mode de garde. On est très accompagnant aussi des familles, parce qu'on sait que c'est souvent un grand moment de tension, la recherche du mode de garde. On fait des réunions d'information mode de garde chaque mois, où on passe 2h30 en visio avec les familles, on les coucoune, voilà. Et notre but, c'est vraiment que la sérénité règne dans ces familles, parce qu'on voit bien que ces familles, aujourd'hui, elles sont vraiment menées à rude épreuve, avec peu de temps, pour se construire.
Alors, si un jeune couple aniérois s'installe, qu'il a la chance de s'installer dans votre ville d'Anières-sur-Seine, quel est son parcours? Il veut se marier, s'unir civilement. Qu'allez-vous lui proposer?
Alors, nous avons mis en place depuis 2015 la préparation mariage civil, qui propose aux mariés... C'est vrai que quand vous êtes élu, vous avez la chance de marier les gens. C'est un moment très émouvant pour un élu. Et les premiers mariages que j'ai faits, je me suis rendu compte assez rapidement que certains mariés se présentaient devant nous sans avoir lu les articles du Code civil, qui sont quand même extrêmement riches, engageants, l'un vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des futurs enfants. Que cette cérémonie, elle était un peu comme à la boucherie, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas rencontré l'élu avant, ils n'avaient pas eu de moment pour préparer même cette cérémonie. Et donc, on a pris ce dossier en main, on a refait le dossier de mariage en le rendant beau et à la hauteur de l'engagement que les mariés allaient prendre. Et on a fait appel à une association qui s'appelle Cap Mariage. On a trouvé des Aniérois qui ont bien voulu monter une antenne à Anières de Cap Mariage, qui sont des conseillères conjugales familiales ou des psychologues. Voilà, elles se sont formées. Et chaque mois, depuis 2015, elles animent la préparation au mariage civil. Alors, ça n'est pas une obligation, c'est proposé au couple, avec une partie notariale aussi, où on explique au couple les différents contrats de mariage, parce que c'est vrai que le mariage, c'est quand même...
C'est un engagement.
C'est un engagement fort. Et de se lancer dans le mariage sans ni avoir lu les articles du Code civil, ni connaître les différents contrats de mariage, ça nous a semblé presque un devoir de la mairie de donner cette information au couple. Et donc, la préparation au mariage, c'est en deux parties. Il y a une première préparation, donc il y a à peu près 10-12 couples à chaque fois. On décortique un petit peu les articles du Code civil, donc ça engendre quelques échanges entre les couples, on présente la partie notariale, et après une seconde réunion est proposée pour parler un peu plus personnellement voilà, de la communication dans le couple, des, voilà, des choses que les couples auraient envie de, d'aborder. Et donc, cette préparation au mariage marche très bien. Alors, vous allez me dire, il y a combien de couples qui... À Agnières, il y a 300 couples par an qui se marient.
Ah oui, c'est bien.
Et
il
y a, à peu près 15% des couples qui assistent à cette préparation au mariage, en sachant qu'il y a des couples que ça n'intéresse pas. Il y a des couples qui se marient religieusement et qui ont ce genre de préparation par ailleurs. Mmh. Et donc, finalement, moi, au début, j'étais un peu déçue. Et en fait, 15%, c'est finalement un beau chiffre. Et ce que je remarque, c'est que je vois beaucoup de jeunes
dans ces préparations. Ah oui, voilà, j'allais vous demander.
Ouais. Je vois beaucoup de jeunes dans ces préparations au mariage civil. Et on sent que les jeunes, ils ont un peu une soif d'absolu. Quand on se marie,
c'est pour la vie.
On a envie de se marier pour la vie.
Ouais, c'est ça.
Moi,
ouais.
Je rencontre... Alors, oui, c'est un peu en arrière-plan. Les gens disent, mais quand même, quand on se marie, c'est pour la vie. Et donc, nous, on a envie de leur donner toutes leurs chances pour que ça aille au bout. Et donc, avec ces rendez-vous, la soirée des mariés pour entretenir la flamme. Et ce qui est chouette dans cette soirée des mariés, c'est que vous voyez les couples arriver en courant. Après leur journée de travail, avoir fait vite fait dîner les enfants, les coucher, ils arrivent en courant, et puis petit à petit dans la soirée, vous voyez des mains qui se prennent par la main, et ils repartent bras dessous, et je vous assure ça vaut le coup
plus
de
fort, en fait. Ça les rend plus forts au niveau du
on leur a offert un temps à deux. Alors heureusement, ils en prennent, j'imagine, en dehors de la mairie. Hein. Mais voilà. Mais en tout cas, on peut le susciter si ça n'est pas
bien
le
sûr.
Cas, parce que effectivement, les gens ont une vie bien remplie et que dans une vie de famille, parfois le couple, c'est le truc qui va arriver en dernier, parce qu'on va faire passer d'abord son boulot,
exactement.
Ses enfants, sa belle famille, ses écrans, le match de foot, et puis. Finalement, le couple, petit à petit, passe en dernier.
C'est ça.
Et sans qu'on s'en rende compte vraiment. Et donc, ces soirées permettent de leur dire, attention, en fait, le couple, c'est vraiment ce qui va structurer votre famille. Donc, prenez-en soin parce que...
C'est le sommet de la pyramide.
C'est ça, exactement.
Ça devrait passer avant tout.
Donc, exactement. Mais c'est facile de le faire passer après tout.
Oui, c'est plus facile, effectivement, dans son sens.
Voilà, nous sommes à la radio ce soir.
Et c'est une fois par an, ces soirées ?
Alors, la soirée des mariés, en fait, on l'a créée assez rapidement après avoir mis en place la préparation au mariage civil. On s'est dit, ça serait trop sympa, finalement, d'inviter ces mariés de l'année qui ont participé à la préparation au mariage civil, qu'on puisse leur proposer quelque chose pour qu'ils se retrouvent. Et puis, finalement... on a invité tous les couples de la ville. Cette année, il y a les commerçants qui se joignent à nous, qui disent, on soutient la soirée des mariés et donc on va offrir, donc on a les fleuristes, les restaurateurs qui vont faire une petite ristourne symbolique aux personnes, aux couples présents. Cette année, il y a un certain nombre de commerçants qui ont répondu présents à l'appel. Et donc, je suis ravie. Je trouve ça vraiment chouette.
En tout cas, c'est une belle réussite parce qu'on se rend compte que le parcours amoureux à Agnières est quelque chose qui est pris très au sérieux. Et l'amour, c'est une chose très sérieuse. Donc, on va passer peut-être à une petite pause musicale avant de se retrouver.
All you need is love.
De retour sur la libre antenne de Dynamique Radio avec Chris au micro. Chris, c'est à toi.
Merci Fred. Caroline Carmentran, vous êtes toujours maire adjointe déléguée à la famille et à la petite enfance de la ville d'Agnières. Les dernières mesures énoncées par Emmanuel Macron en termes de congé parental vous semblent-elles suffisantes ?
Alors là, vous me faites un très très beau cadeau et je vous en remercie parce que c'est mon sujet, en plus de celui des couples. J'ai un deuxième dada, c'est le congé parental.
Parfait.
Parce que, effectivement, il y a un rapport qui est sorti qui s'appelle le rapport des 1000 jours et qui souligne l'importance des 1000 premiers jours de l'enfant pour créer ce lien avec les parents. Or aujourd'hui, vous avez des familles qui, par choix ou pas par choix, remettent leur enfant des 2 mois et demi à la crèche chez une assistante maternelle, une auxiliaire parentale. Et moi, je croise beaucoup de familles qui me disent « Mais Madame Carmentran, on ne peut pas, en fait, on ne peut pas. On aimerait bien rester au plus avec notre enfant, mais on ne peut pas. » Alors, moi, j'ai une question pour ce gouvernement. L'État dépense à peu près 2000 euros par mois pour une place en crèche. Ça coûte à vos impôts, à l'État, 2000 euros par mois pour créer une place en crèche.
Ah oui,
c'est énorme.
C'est énorme.
C'est
énorme.
Le prix, c'est le coût, investissement et fonctionnement, c'est le coût. Mmh. Les parents payent très peu cher.
Ouais.
En fait, ils payent entre 20 centimes de l'heure et 3,84 euros de l'heure quand ils mettent leur enfant en crèche. Donc, c'est l'État qui va compenser évidemment le coût, puisque c'est, le coût réel n'est pas ça. Vous avez des normes pour les crèches qui sont hyper importante, ah là oui, où vous allez acheter un meuble IKEA, je sais pas si j'ai le droit de le dire,
très
des meubles extrêmement chers, extrêmement, voilà, et donc le coût d'une place en crèche est à peu près 2000 euros par mois, l'État dépense 2000 euros, vos impôts dépensent. En revanche, si c'est un parent qui garde son enfant, c'est 400 euros.
C'est ça,
ah par oui. mois.
C'est ça.
Il y a un intérêt financier aussi.
Donc en fait, intéressant à savoir. On a créé une société, les crèches, en fait, elles ont été créées dans les années, je ne sais plus, mais le but de la crèche, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport de l'IGAS qui est sorti, parce qu'on parle beaucoup des crèches en ce moment, et voilà, avec le problème de recrutement, de qualité, d'accueil du jeune enfant et tout ça. Et les crèches, au départ, elles ont été créées, l'objectif de la crèche, c'était que la femme aille travailler. Et c'était l'objectif recherché, que la femme aille travailler. Peu importe le coût, puisque on est à 2000 euros par mois. Et peu importe un peu l'enfant aussi. Ce qui était important, c'était que la femme aille travailler. Je n'ai pas de jugement à donner là-dessus. C'est écrit, c'était l'objectif de la crèche. Okay. Et donc, on a inventé ce mode de garde, créé ce mode de garde pour permettre à la femme d'aller travailler. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que y a en fait un enfant... vous voyez, dans une crèche, c'est les taux d'encadrement, c'est un adulte pour 5 qui ne marche pas ou un adulte pour 8 qui marche. Vous voyez, donc quand vous... Et ils ont réussi à faire croire aux parents, en fait, que c'était en plus super bien pour l'enfant d'être gardé par un adulte avec qui garde 5 enfants ou 8.
Ce qui est compliqué, 8, ça devient compliqué.
Même et en 5, fait, si vous, beaucoup, si vous vous projetez vous-même... voilà.
Je veux ma retraite.
Et en fait,
je sais pas comment elles font honnêtement.
Mais l'enfant n'a pas du tout été mis au centre, et ni même les professionnels. Et donc aujourd'hui, on arrive à la fin, enfin pas à la fin de ce système, mais quand même, il est très très interrogé ce système de la crèche. Personne n'interroge sur le coup. Alors là, vous n'entendez aucun
ministre,
plateau de télé, vous n'entendez le coût de la place en crèche. D'ailleurs, le premier mode de garde en France, ce sont les parents.
Oui.
Premier mode.
Ouais.
Deuxième mode de garde, les assistantes maternelles. Et en dernier, la crèche, puisque les villes ne peuvent pas créer autant de places en crèche qu'il y a d'enfants, puisque c'est un mode de garde qui coûte extrêmement cher et finalement qui profite à peu d'enfants. Vous dépensez 2000 euros pour un seul enfant, alors que vous donnez 400 euros à sa maman si elle garde son enfant, ou à son papa. Et donc, c'est pour ça qu'à Asnières, nous, on a fait le choix de développer les modes de garde alternatifs à la crèche, qui sont beaucoup moins coûteux. Donc, on a ouvert des maisons d'assistantes maternelles, on a ouvert un relais d'auxiliaire parental, je ne vais pas trop développer, mais voilà, qui coûte beaucoup moins cher aux collectivités, et où l'enfant est vraiment pris en compte. Il est pris en compte dans nos structures parce que j'ai un personnel formidable qui est hyper investi. Mais aujourd'hui, j'avais une réunion à la CAF ce matin. Je ne citerai pas les villes. J'entendais les villes du 92. Moi, j'ai gelé 120 places de crèche. Une ville voisine d'Asnières, 120 places de crèche. Les villes gèlent des places puisqu'il n'y a pas assez de personnel aujourd'hui.
Et donc,
et Monsieur Macron nous annonce qu'il va créer encore et encore des places en crèche, alors qu'on n'arrive même pas à laisser ouvertes celles qui existent parce qu'on n'a pas assez de personnel. Moi, ça fait, par exemple, dans une de mes crèches, ça fait un an que je cherche une directrice. J'ai zéro CV, zéro.
Pour quelle raison ?
Ouais, c'est ce que j'ai demandé.
Alors, c'est plus particulièrement dans le 92 parce que le coût de l'immobilier a explosé. Mmh. Et donc, pour un CAP petit enfant se loger dans le 92, c'est pratiquement impossible. Et donc, elle préfère trouver du boulot en bas de chez elle et aller travailler dans une crèche à côté de chez elle plutôt que de faire une heure de transport pour venir travailler.
Oui, bien sûr.
Et donc, dans le 92, c'est catastrophique. Et je vous dis, là, j'avais une réunion avec des élus petite enfance aujourd'hui et tout le monde gèle des places. À Agnières, on s'en sort encore bien. Parce qu'on avait un peu anticipé, on avait réduit les horaires, on avait rajouté quelques jours de vacances pour permettre...
Ouais, vous avez pris des mesures pour les fidéliser et les garder.
C'est
quoi,
ça,
celles que vous aviez qui étaient bien.
Et donc, là, M. Macron nous dit, ah non, mais voilà, on va créer un congé parental. Donc aujourd'hui, le congé parental, il dure 3 ans. Sauf que la dernière année, depuis François Hollande, le père doit prendre la dernière année du congé parental. Or, dans les faits, il n'y a que 2% des pères qui ont pris ce congé parental et 98% des familles qui l'ont perdu la dernière année. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, ces familles ? Elles se sont retournées vers la crèche aux 2 ans de l'enfant en disant bah, « je veux un mode de garde ». Sauf que trouver un mode de garde à 2 ans, c'est compliqué parce que les crèches sont pleines. Et voilà. Et donc là, M. Macron, il veut recommencer exactement la même chose. Donc, il nous dit, on va mieux rémunérer le congé parental, et ça, c'est une bonne chose. Ça va être 6 mois. Donc, 6 mois pour la mère, 6 mois pour le père, imposé. En fait, laissons les familles faire ce qu'elles veulent.
Bah oui.
Si le père a envie de prendre un an de congé parental, bah, qu'il prenne ses 1 an.
Droit.
Si la mère, elle a envie de prendre 1 an, mais de quel... Pourquoi l'État s'immisce dans les familles et vient nous dire, tu prends le congé parental.
Non, c'est pour imposer cette répartition qui est ridicule.
Ouais. Voilà. Et donc, mais en revanche, il a dit qu'il allait, le congé parental va passer à 1 an, au lieu de 3, à 1 an. Là où tous les rapports disent que les 3 premières années de l'enfant sont fondamentales pour créer ce lien avec les parents. Et il y a des familles qui ont fait le choix de prendre 3 ans. Et ces 160 000 familles, qu'est-ce qu'elles vont devenir, en fait ? Elles vont faire quoi ? Elles vont venir taper à notre porte en disant « Vous avez une place en crèche ?» Ben non, on n'en a pas,
bien sûr.
Donc de nouvelles structures, de nouveaux personnels.
Qu'on n'arrive pas à trouver. Mmh. Et un coût pour la collectivité énorme, puisqu'encore une fois, la crèche reste le mode de garde le plus élevé pour la collectivité. Alors que moi, je prône un congé parental... Oui, la première année, mieux rémunérée, parce que c'est avec 400 euros.
C'est pas vivable.
Enfin, ça le vaut pas. Hein, ça le vaut pas quand vous êtes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une part quand même assez idéologique. C'est-à-dire que quand un État est prêt à dépenser 2000 euros par mois pour faire garder des enfants, mais n'est prêt qu'à dépenser que 400 pour.
Il y a un écart.
Il y a un fossé.
Il y a un gap.
Vous voyez, il y a un truc.
Pour réduire l'écart.
Pourquoi, en fait ? Pourquoi ? Parce que, voilà.
Mais si on veut vraiment encourager les parents à avoir des enfants, est-ce que ce ne serait pas justement la solution de, je dis n'importe quoi, de les rémunérer 1500 euros par mois ?
Ben, c'est ça. Et puis.
Et comme ça, là, la question de la faisabilité ne se pose même pas. On peut relativement vivre, en tout cas, avec le salaire de l'autre. Conjoint, les deux cumulés, 1500 plus X, c'est jouable, c'est vivable, et du coup, en plus, comme ça, on impulse un mouvement qui va faire que potentiellement ça peut les inciter à avoir des enfants, au contraire.
Et ça va remettre de la sérénité dans la famille aussi. Et puis, avec sa réforme, qu'est-ce qui va se passer de toutes ces femmes qui vont, là au moins, pendant 3 ans, elles étaient en congé parental. Ça veut dire qu'au bout des 3 ans, elles retournaient dans leur entreprise et leur poste était toujours là.
Tout à fait.
Là, on va réduire à 1 an le congé parental. Les mamans qui veulent rester auprès de leur enfant, elles vont faire quoi ? Elles vont démissionner. Et donc, on va les précariser, on va précariser leur emploi. et elles ne pourront pas retourner dans l'emploi. Alors qu'avec le congé parental long, bien rémunéré la première année pour voilà, inciter, et puis peut-être après dégressif, un petit peu moins, ouais. Parce que effectivement c'est un vrai coût,
oui.
Mais ce congé parental, il protège aussi la femme, il lui permet de pouvoir garder un pied dans l'entreprise. Là, avec cette mesure de Macron telle qu'il nous l'a présentée, c'est une catastrophe.
De toute façon, tel que c'est présenté, c'est je fais mon enfant, je reste 6 mois avec lui, donc j'ai ma dispo entre guillemets de mon employeur pendant 6 mois, et ensuite, terminé
c'est
quoi.
Ça, c'est terminé.
Je donne mon bébé à mon mari et moi je retourne bosser quoi.
C'est ça. Et au bout d'un an, de toute façon.
Et au bout d'un an, terminé. Finito, quoi.
Voilà.
En fait, ce qui demeure, c'est que jamais la place de la femme n'est confortable dans la maternité, et qu'à chaque fois, on se retrouve avec des choix cornéliens à faire entre notre travail, entre notre enfant, notre début de vie, et aucune formule qui nous est proposée par aucun gouvernement n'est satisfaisante à ce jour. On se retrouve toujours à faire des choix qui sont cruels, difficiles et qui endommagent la famille. Il y avait une ouverture, Monsieur Macron n'a pas choisi de la prendre.
Ah
donc,
ouais, ça c'est dramatique pour les familles. Moi, j'en suis malade pour toutes ces familles que je croise et que j'ai au téléphone quotidiennement et qui sont en attente de ce congé parental parce que ça va être un moment de respiration pour les familles. On l'a vu au moment du Covid. Alors, il y a des familles pour qui ça a été dramatique le Covid. Ce confinement, ça a été dramatique pour les familles qui étaient petitement logées. Il y a eu des tensions, certes, on ne va pas les nier. Mais ça a été aussi un moment où les parents ont découvert qu'ils pouvaient prendre du temps avec leur enfant, qu'ils ne vivaient pas à 100 à l'heure et ils y ont pris du plaisir en fait.
Et leur faire les devoirs et prendre le temps de leur faire l'école à la maison, mais aussi d'autres activités, plein de choses pour les occuper déjà et puis pour faire des trucs avec eux, pour partager des moments.
Et qu'ils étaient tout à fait capables de le faire. En fait, on dit un peu aux parents, en fait, allez bosser et puis l'État va s'occuper de vos enfants à la crèche dès 2 mois et demi. Après, il va aller à l'école, à la cantine, au périscolaire. Voilà, on va s'en occuper. Quand on voit l'État, la santé mentale des jeunes, là, tout ce qui ressort en ce moment sur la santé mentale, où les jeunes sont sous antidépresseurs, où les jeunes vont voir des psychologues, des psychiatres, qu'il n'y en a pas assez, qu'il faut absolument de toute urgence recréer des psychiatres en France. Mais encore une fois, j'en reviens à la préparation au mariage civil, pourquoi n'agissons pas en amont ? On nous dit partout que les 3 premières années de l'enfant, c'est fondamental.
Les 1000 premiers jours, vous le dites.
Oui, les 1000 premiers jours, c'est fondamental pour sa construction. Donc, commençons par ça et vous verrez que la santé mentale des adolescents ira beaucoup mieux si on a pris soin
les 3 premières.
Si on a resserré les liens en fait
dès le début,
resserré les liens parents enfants,
c'est ça.
Véritablement, il y a le courant passe quoi, que ce soit pas uniquement le métro boulot dodo et que chacun de son côté fasse ce qu'il a envie de faire sans prendre le temps d'être disponible pour l'enfant.
C'est ça. Et puis avec des injonctions données aux parents. T'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, la discipline positive, oulala. La discipline positive, c'est très bien, mais poussée à l'extrême, on se rend compte, hein, je rencontre beaucoup de psychologues, de pédopsychiatres qui disent le problème numéro un rencontré, que je vois dans mon cabinet, c'est les parents qui n'ont pas posé de limites.
Alors là, c'est clair.
Parce que la société leur a dit, voilà, faut laisser,
faut que l'enfant soit heureux.
vous le voyez déjà pas beaucoup, donc et puis les parents, je les comprends, ils voient pas beaucoup leur enfant, donc quand ils le voient, ils ont pas envie de lui mettre un cadre, alors qu'en fait un enfant a besoin, c'est hyper rassurant d'avoir un cadre. Et donc au bout d'un moment, forcément, les parents ils sont débordés, un enfant à qui on ne met pas de cadre. Eh bien, évidemment, ça devient un tyran et les parents n'en peuvent plus. Et donc, ils vont consulter. Et donc, ces pauvres parents, on leur donne des injonctions dans un sens, dans un autre. Mais moi, je leur dis, faites-vous confiance. Et c'est pour ça qu'à Agnières, on a également créé ce qu'on appelle le réseau des parents, c'est une association qui s'est lancée à Agnières et qui propose aux collectivités un programme de soutien à la parentalité avec des ateliers, des conférences tout au long de l'année sur tous les sujets. Ça va être le sommeil de l'enfant, ça va être comment poser des limites, ça va être voilà, des outils pour aider le parent en lui disant en fait c'est vous les premiers éducateurs, c'est vous qui savez faire mieux que n'importe qui d'autre, faites-vous confiance et puis nous on va vous donner des petites astuces, vous vous en saisissez ou pas. Et donc ce réseau des parents marche très bien, il s'est développé du coup beaucoup dans le 92, il y a de nombreuses municipalités qui font appel à ce réseau des parents, qui organisent aussi des temps de rencontres entre parents, et finalement les parents quand ils parlent entre eux, ils se rendent compte que ben, la voisine elle est dans la même galère et que je ne suis pas toute seule, je ne suis pas la pire des mères, et du coup le fait d'organiser ces échanges dans une société qui va vite, où on n'a plus le temps de connaître son voisin, et donc ces moments sont vraiment appréciés par les familles, et comme je vous le disais au départ, en fait nous vraiment à Nières, on essaye que règne dans nos familles à Niéroises la sérénité, et donc tout ce qu'on met en place, que ce soit la préparation mariage civil, le réseau des parents, la soirée des mariés, les réunions d'information mode de garde, qui me prennent beaucoup de temps, hein, qui prennent beaucoup de temps au service. Et les familles nous disent, mais merci, c'était la jungle, on ne comprenait rien. Vous nous avez expliqué pendant une heure et demie tout ce qui existait, combien ça coûte, quelles sont les aides, quelles sont les personnes ressources. Et les familles, on sent qu'elles font un ouf de soulagement. Donc voilà, pour moi, c'est notre rôle d'élu local de faire en sorte qu'une famille aille bien. Et comme je le disais au départ, hein, dans un immeuble, quand une famille commence à excusez-moi du mot, déconner, ben, ça va pourrir la vie de tout l'immeuble. Alors que quand il y a une bonne ambiance, les familles vont bien, il y a une bonne ambiance, et bien dans un quartier, ça va faire tache d'huile sur le quartier et sur la ville.
Voilà. Caroline Carmentran, merci à vous. On revient dans quelques instants, c'est le temps d'une seconde pause musicale avec un remix d'un titre d'Edith oui. Piaf, La Foule. All you need is love. Dynamique Radio, on est de retour à l'antenne sur le www.dynamicradio pour la libre antenne spéciale Love, Chris.
On est toujours avec Caroline Carmentran et toujours aussi curieuse de ce qu'elle a à nous apprendre sur sa mairie modèle en termes de politique familiale. On apprend beaucoup de choses ce soir. Caroline, si on rêvait un peu, si on faisait une sorte de société idéale, quelle politique publique familiale prioritaire pourrait-on mettre en place ? Les mesures les plus importantes à vos yeux qui pourraient être mises en place pour améliorer immédiatement la vie des familles et des couples ?
Alors, déjà, vraiment, je reviens sur ce congé parental. Ça ne va pas tout changer, mais au moins que les familles aient le choix et surtout qu'on redonne du temps aux familles, de la respiration pour construire une famille. On a l'impression que une famille ça pousse, donc on va travailler, on a des enfants, voilà, mais que ces familles-là, elles ont besoin de temps, et que ça c'est peut-être un regard un peu, j'ai moi-même 4 enfants, donc j'ai du recul sur ce qu'a été de construire une famille. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ces jeunes familles, il faut leur redonner du temps et du temps de qualité avec leur enfant et qu'elles prennent plaisir à s'occuper de leur enfant. Aujourd'hui, on leur donne trop d'injonctions de retravailler à 2 mois et demi, mais quand tu rentres, tu as très peu de temps, donc il ne faut surtout pas crier, il ne faut surtout pas mettre de limites, il faut surtout pas... On leur donne beaucoup d'injonctions. Moi, j'ai envie... Mettons sur pause et redonnons du temps aux familles, tant pour les parents, qu'ils découvrent que c'est chouette de passer du temps avec ses enfants, et aussi pour les enfants qu'ils ont besoin de passer du temps aussi avec leurs parents.
Isabelle,
et faisons des allers-retours. En fait, c'est possible de faire des allers-retours. Moi, je rêve d'une société où on peut s'arrêter pour construire sa famille, s'occuper de ses enfants, retourner travailler. Et la société devrait faire ça, devrait prendre soin et proposer des parcours aux femmes, justement, qui se sont arrêtées un peu de travailler, de les suivre, de leur proposer des bilans de compétences, des choses pour qu'elles puissent... Peut-être qu'elles n'auront pas la même carrière qu'elles avaient prévue au départ. Peut-être qu'elles vont faire autre chose, mais elles auront pu équilibrer en faisant autre chose, vie de famille et vie...
Oui, oui c'est ça. Peut-être qu'au final, ça peut être le départ d'un nouveau parcours auquel elles n'avaient même peut-être pas forcément pensé en amont.
Et exactement. Valorisons l'expérience de maman, en fait. Exactement. Sur une ligne de CV, ça devrait être...
Exactement.
Voilà, ça devrait être valorisé.
Quand vous êtes maman, hein, vous avez...
On sait tout faire.
Hein, vous savez tout faire. Vous avez 1000 casquettes. Il faut trouver la solution
et on gère le temps.
Rapidement, on gère le temps.
Allez, une question. Du côté d'Isabelle.
Alors, une question. Ouais. Tout à l'heure, vous disiez que donc, le personnel, entre guillemets, d'Anière avait été formé justement par rapport à l'accueil des familles, etc. Et je me demandais, comme on parlait de familles qui pouvaient potentiellement, lors d'un court instant, dysfonctionner, entre guillemets, et je me demandais, par rapport à tout ce qui est gendarmerie ou commissariat, etc., est-ce que du coup, vous avez aussi... plus mis l'accent sur la formation des personnes qui peuvent recueillir la parole d'un homme ou d'une femme alors, à un moment T où ça ne se passe pas bien.
Ça, c'est la loi. Hein. Ce gouvernement a mis un gros focus hein, sur les femmes battues. Et,
tout à fait.
Et ça, c'est... Enfin, je trouve ça formidable, effectivement, que une femme qui est battue, maltraitée, elle puisse très rapidement sortir de chez elle ou qu'on sorte de chez elle la personne. Donc nous, par exemple, à Anières, il y a un appartement qui est dédié à accueillir ces femmes qui ont besoin de... et c'est super qu'on prenne en compte la parole des femmes, qu'on forme les policiers à écouter ces femmes. C'est fondamental. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y en ait moins?
Oui, ça part par...
Ça, c'est une sacrée question.
Qu'est-ce qu'on fait pour en ait moins?
Ça, c'est une sacrée question.
Tout ça, c'est de l'amont. Ça
bien
va
sûr.
Être
de l'éducation.
De l'éducation. Ça nous a sauté aux yeux au moment des émeutes. Au moment des émeutes, on a arrêté des gamins de 12-13 ans.
Tout à fait.
Et le président de la République s'est étonné en disant... Mais
ah oui, mais il a dit c'est une génération TikTok.
Où sont les pères?
C'est TikTok.
On s'est rendu compte que la majorité des enfants n'avaient pas de père. Où sont
famille
les pères?
Famille monoparentale.
Famille monoparentale, mais c'est extrêmement difficile d'élever des enfants seuls.
C'est très difficile.
Extrêmement difficile. Donc, quand je dis qu'il faut agir en amont... pour essayer de faire en sorte que le couple reste uni et ne s'engage pas s'il n'a pas suffisamment...
Oui, les épaules pour...
La dignité. Ou pris en mesure les conséquences d'avoir un enfant, vous vous engagez vis-à-vis de lui. Quoi. Ouais. C'est pas, on n'a pas un enfant...
D'où la nécessité d'amour durable.
C'est ça, exactement.
De trouver de l'accompagnement pour aider ses familles.
Exactement. Et donc, c'est vrai qu'au moment des émeutes, on dit, ah, mais comment ça se fait, des enfants de 12 ans, qu'on arrête. Mais en fait, personne ne fera mieux que les parents. Donc,
il faut
aider les parents, les soutenir, les valoriser. S'ils sont défaillants, eh bien...
Oui, là aussi.
Et quelle force faut pour une mère d'empêcher son fils ou sa fille de sortir, notamment quand ils ont l'âge de 12-13 ans, parce que la prise de pouvoir quand vous êtes seul face à votre enfant, ça peut être très compliqué aussi. D'où la nécessité d'un couple uni, hein, parce qu'on est aussi sur la notion de la saison d'amour durable. Bah, c'est vrai qu'il y a des outils, c'est pas évident tout le temps la vie de couple, mais les conséquences d'un divorce peuvent être très très importantes sur votre structure familiale, sur votre enfant, mais aussi sur la société en général, si on peut résumer un peu votre propos.
Exactement, et alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas trop la politique familiale développée à Anières, et en particulier cette soirée des mariés, et la préparation au mariage, et parce que le reproche qui est fait, c'est vous rentrez trop dans l'intimité des gens, ça n'est pas votre rôle d'élu. Mais en fait, moi, je leur réponds, mais quand je reçois dans mon bureau une maman en pleurs, dont le mari est parti, qu'il a largué là avec 3 enfants, qui n'a plus de logement, qui a besoin d'une place en crèche, mais je rentre aussi dans son intimité et je vais tout faire pour essayer de l'aider.
Bien sûr.
Mais en fait, la première des solidarités, elle se joue dans la famille. C'est à partir du moment où cette solidarité ne marche plus dans la famille que les personnes vont se tourner vers l'État et vont demander de l'aide. Mais si une famille va bien, bah, elle ne va rien demander à l'État. En fait, elle va s'occuper des personnes âgées aussi, de l'intergénérationnel. Elle va s'occuper de... Mais aujourd'hui, la famille, elle n'a plus le temps de rien. En fait, on n'a plus le temps de s'occuper de nos anciens, on n'a plus le temps de s'occuper de nos enfants, on n'a plus le temps de rien, parce qu'on a créé une espèce de société où, finalement, ce qui compte, c'est de consommer.
Voilà. Alors, il y a des auditeurs qui nous écoutent, si vous le permettez. Donc, il y a un message d'un certain Jonathan qui tente d'élargir donc le débat et qui parle du revenu universel lié à la famille. Parce qu'une personne, ça peut être la maman ou le papa d'ailleurs, qui a le temps, du coup, là, ça dépasse le congé parental, mais on est sur plusieurs années. Mmh. Mais finalement, est-ce que c'est pas structurant aussi d'avoir un parent à la maison quand vous rentrez du collège, du lycée? Ça permet finalement de suivre les devoirs, ça permet d'être à l'écoute, ça permet d'être... Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Alors, moi, encore une fois, je ne suis pas pour imposer aux familles. Voilà, je ne suis pas pour imposer aux familles. Je veux quand même qu'on rappelle aux familles qu'elles sont ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants et que l'État ne le fera pas à leur place. Et donc, après, c'est quand même, ça doit rester un choix pour la famille de prendre du temps avec ses enfants. Il y a des mamans qui vous diront, non mais moi, passer une semaine, au bout d'une semaine avec mes enfants, j'en peux plus.
Ouais, c'est...
Donc il faut donc c'est pour ça, il faut quand même laisser le choix, mais il faut quand même redire aux familles qu'un enfant, ça prend du temps pour le construire dans sa construction, et donc en revanche que les familles aient le choix, ça pour moi c'est une obligation. Moi il n'y a rien de plus qui me fend le cœur de voir ces mamans qui me disent, mais Madame Carmentran, j'aimerais vraiment rester chez moi, mais 400 euros, je ne peux pas.
C'est ça, c'est compréhensible.
Voilà, je ne peux pas.
C'est compréhensible.
Et donc, effectivement, je ne sais pas si je parlerai de revenus universels, mais en tout cas, de laisser un vrai libre choix aux familles, et on sera étonné de
bien
voir
sûr
le nombre de familles qui s'arrêteront pour prendre un petit peu plus de temps avec leur famille.
On en est persuadé.
Est-ce que vous avez mesuré quelles ont été les conséquences, par exemple, de l'accompagnement au mariage?
Alors, malheureusement, je ne peux pas faire d'études d'impact parce qu'en fait, vous vous mariez dans une ville, mais vous divorcez dans une autre.
D'accord.
On n'est pas fidèles.
En toute discrétion.
Sans pas fidèles.
Voilà, donc on n'a pas forcément de suivi des couples qui se marient.
Oui, ce qui est logique, bien sûr.
Mais ça serait effectivement
ça pourrait être intéressant de voir si on prend le problème en amont, est-ce que ça a des conséquences et est-ce que ça peut faire baisser potentiellement le nombre de divorces?
Alors il y a une étude qui est sortie là sur le coût d'une séparation
ça peut coûter cher,
qui s'appelle je crois que c'est Vers le Haut qui a sorti cette étude. C'est Vers le Haut, ils sortent souvent des études comme ça un peu sur la société. Et cette étude, elle est très intéressante parce que justement, elle démontre que le coût d'une séparation sociale sur les enfants, à chiffres à l'appui. Et elle propose justement cette étude de rembourser par exemple le conseil conjugal et familial, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque l'État finance la médiation familiale, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une fois que le couple est séparé, pour que ça se passe le mieux possible, et c'est très important de le faire. Mais en amont, si un couple va voir un conseiller conjugal et familial, ça lui coûte, je ne sais pas, 80
euros. Oui, c'est assez cher.
Voilà, c'était le cas d'hier avec notre invité d'hier.
C'est assez cher.
C'est que le cabinet exprime.
Et donc, il y a beaucoup de familles qui n'ont même pas se poser la question d'y aller parce qu'elles n'ont pas les moyens.
Alors justement, très intéressant, cette personne nous disait hier que certains couples avec un budget restreint n'hésitaient pas à justement faire l'effort financier, qui n'était pas non plus démentiel, de venir pousser la porte du cabinet pour se faire accompagner et aider. Donc ça veut dire aussi que ça peut être un choix, que la formule gagnerette peut être plus accessible, certaines le sont, et que se faire accompagner devrait être plus un réflexe dans notre société. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut impulser.
Ouais. C'est ça, je vous rejoins. Ouais, ça n'est pas forcément le coût. Oui, effectivement, c'est un coût, mais même si vous mettiez 20 euros... comme vous le dites, c'est pas un réflexe.
Faut avoir
vous
un
allez
info.
Le réflexe d'aller réparer votre bagnole, ça vous l'avez, mais de prendre conscience.
D'ailleurs, un sujet là. Ouais, c'est un
sujet. mais de se dire, ben pff, voilà, là il y a un petit truc qui va pas ou c'est trop tendu. Mais il faut une petite dose, j'imagine, de enfin faut pas être orgueilleux quoi.
Oui,
faut,
voilà, faut accepter de se remettre en question,
se mettre devant quelqu'un,
se remettre en question.
Mais c'est effectivement pas, il faudrait que ça rentre dans, que ce soit pas une honte en fait. Aujourd'hui, voilà, je pense que c'est peut-être vécu un peu comme une honte. Oui. Oh là là, tu vas voir un conseiller conjugal, ça veut dire que ça va mal dans ton couple.
Est-ce que entre deux, il peut pas y avoir au niveau des mairies des propositions par exemple de seniors qui sont disponibles et qui pourraient effectivement être prêts à répondre aux besoins d'accompagnement, aux besoins de rencontres avec des couples en difficulté.
Alors, c'est bien d'avoir du personnel qui est formé.
Au lieu de payer 80 euros, c'est ce que je veux dire.
Oui, alors, on peut avoir un témoignage de d'un couple plus ancien.
Qui marche bien et voilà, et qui donne ses recettes.
Voilà, et qui peut venir donner ses recettes. Mais c'est vrai, quand un couple rencontre des difficultés, je pense que c'est bien qu'elle soit en face d'un professionnel.
Oui.
Voilà, parce que la bonne volonté, c'est super.
Et d'un recul.
D'un recul.
Il y a,
voilà,
des outils. Hein.
Mais et donc,
il y a
eu des amendements qui ont été déposés là, dernièrement à l'Assemblée nationale et au Sénat pour demander le remboursement du conseil conjugal.
Ben voilà. Voilà une solution.
Il y a donc,
parce que si c'est gratuit,
en
plus.
C'est en train de pousser un peu.
C'est gratuit, c'est parfait.
Bien sûr. Bah, c'est un peu la même démarche qu'aller chez le psy. Hein. Auparavant, c'était quelque chose qu'on cachait un peu.
Complètement.
Et puis maintenant, c'est devenu tout à fait assumé. Donc on peut imaginer, on peut espérer que dans quelques mois, années, on ira facilement voir un conseiller conjugal.
Et finalement, ça sera peut-être même une obligation tous les 3 ans d'aller faire une petite...
un jour qu'on te rappelle,
on n'aura
voilà,
plus le choix.
C'est ça.
Une petite session,
ouais,
ça
petite
sera obligé.
Session d'entretien.
Non, mais
voilà,
bon, on l'a compris. Dans un couple, l'important c'est la communication.
Ah oui,
ouais, c'est de s'aimer, l'amour, le fameux amour.
L'amour.
Alors, mais la communication aussi.
J'avais une autre question. Moi, c'est
pour conclure, ça sera la dernière.
Je rencontre beaucoup de jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Et quand vous les mariez, etc., qu'est-ce que vous faites par rapport à cette question? Et est-ce que vous avez mis en place une démarche?
Alors, effectivement, c'est un vrai sujet de société aujourd'hui, hein, puisque vous avez vu le taux de natalité en France
est en chute.
Mm-hmm. On est à 1,8.
Ouais.
Alors que le désir d'enfant est à 2,37.
Ça, c'est très intéressant.
Chez qui, d'ailleurs? Chez les femmes ou chez les hommes?
Bah, les
le
deux.
Désir
les
non, mais...
Ah, alors, le désir d'enfant, chez
dans
les Français,
le couple, ouais.
Dans, voilà, chez les Français, c'est 2,37 ouais. enfants. Et donc, on est en dessous, avec 1,8 de taux de natalité, on est en dessous du désir d'enfant. Donc,
oui, mais donc, du coup, ça prouve bien qu'il y a un problème de politique de...
Oui, on est passé à un 7 et un 8.
Six,
voilà.
Oui.
Et donc, ça prouve bien que ce désir d'enfant, il est toujours là, hein. En fait,
mais il y a beaucoup de peur.
Mais il y a d'autres
non,
facteurs, notamment des facteurs
dire,
économiques.
Non, mais
peut-être.
On va vous
bassiner.
Voilà, ouais. On va vous dire, les gens ne veulent plus d'enfants à cause de la planète, les gens ne veulent plus d'enfants.
À cause de la
crise. Mais en fait, le désir d'enfant, il est toujours là. Donc, quelle est la responsabilité des politiques pour que...
Encourager, quoi.
Pour que ces gens... qui veulent avoir un enfant ne renoncent pas pour des questions économiques. Et donc, la famille, elle doit... transpirer partout, mettre des affiches en disant la famille c'est super, Par exemple, je sais pas, donner des places de stationnement aux familles. Quand vous voyez des familles qui rentrent de week-end, elles se garent en double fil, elles galèrent, elles machin. Rien n'est fait pour la famille. En fait, si vraiment on a envie de dire aux familles, on vous aime, on va tout faire pour vous soutenir, ça doit transpirer dans toutes les politiques, ça doit être transversal. Pour moi, une entreprise aussi doit il doit y avoir des entreprises family friendly qui signent des chartes family friendly. On fait signer tout un tas de chartes aux entreprises. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais tout un tas de chartes. Mais moi, je voudrais qu'on crée des chartes family friendly où on s'engage à ce qu'il n'y ait pas de réunion
trop tard le soir ou trop
après,
tôt le matin.
Après 18h ou après 15h.
17.
17, oui, voilà, pour qu'ils
puissent aller en café. Pour les transports, 16.
Voilà, et que on arrive à organiser une société où on puisse équilibrer sa vie familiale et sa vie professionnelle.
Exactement.
Parce que effectivement, c'est sans doute radical de dire on va donner un salaire à la mère au foyer, là on va me traiter de...
Non, mais ça
l'a dit, mais c'est ce que je voulais dire avec le revenu.
Mais voyez,
revenu familial.
Voilà. Mais en tout cas, organisons,
les deux,
organisons la société pour les familles.
Ça réduira le chômage.
Et en fait, il n'y a même pas de ministère de la famille.
Faire le plein emploi.
Il a duré 3 mois, il a été supprimé, il n'y a pas de ministère de la famille. Quel message vous envoyez? Le mot famille, il n'est plus jamais prononcé par les politiques. Il a été reprononcé au moment des émeutes. Où là, on a dit, mais où sont les familles?
Où sont les parents?
On se rend compte que quand il y a des problèmes, en fait. Donc,
écoutez un discours politique, jamais il ne prononce le mot famille. Jamais.
Et pourquoi? Parce que ça a une connotation entre guillemets réac ou c'est quoi le
gaullisme?
Sans doute, ça a une connotation réac, ça a cette connotation aussi morale, où on n'a pas à s'immiscer dans la vie des familles, mais en fait...
C'est le quotidien pourtant.
En fait, l'État s'y met déjà, de toute façon, de par sa politique familiale.
Exactement.
J'aimerais lancer notre débat, mais ce sera pour une autre fois. Et quid des orphelins?
Oui, parce que tu...
Eh oui.
Voilà.
Parce que les parents qui veulent des enfants, mais qui ne peuvent pas en avoir... L'adoption, c'est de plus en plus difficile.
De plus en plus difficile. Ça, c'est pareil.
C'est vrai que c'est
un autre sujet.
C'est un autre sujet.
J'en viendrai à ce sujet-là.
Ce qui est violence physique, on en parlait, les policiers s'occupent de la violence physique, mais très peu, et même les magistrats, n'étudient pas et ne travaillent pas sur la violence morale. Or, il y a énormément, moi je vois, de personnes que j'accompagne, en particulier des mères de famille avec 3 enfants qui vivent tout seuls, etc., qui subissent une violence morale de la part de l'ex.
Bien sûr.
Et ça, c'est absolument pas traité.
Non, c'est pour ça que ces femmes, souvent, elles sont quand même très seules et elles peuvent pas y arriver. Élever 3 enfants toutes seules, c'est pour moi, c'est presque mission impossible, quoi.
Et du coup, pour conclure, est-ce qu'on peut juste
demander... Il va falloir conclure.
Est-ce qu'on peut demander à Madame le maire quels sont les projets futurs? Qu'est-ce qui va arriver bientôt?
Alors là, on va ouvrir une maison de la famille, justement, où on va étoffer l'équipe de professionnels à destination des familles. Et donc, une famille qui rencontrera un problème pourra toquer à la porte de la maison de la famille. Il y aura quelqu'un qui sera là tous les jours pour écouter, l'orienter. Il y aura des professionnels, donc il y aura des conseillers conjugaux et familiaux, il y aura des coachs parentaux, parce que maintenant il y a des coachs parentaux, et il y aura surtout une ligne d'écoute où on pourra orienter une famille, par exemple, qui est désespérée parce qu'elle a un enfant handicapé et qu'elle se heurte à une administration. Cette famille-là, moi, je ne veux pas qu'elle reste seule. Et donc, il y aura quelqu'un pour l'accueillir, pour l'orienter vers la bonne association, pour faire un suivi et que les familles ne soient pas toutes seules. Une hotline famille, en fait.
Bravo à vous pour tout ce que vous faites dans la ville d'Amiens. Caroline Carmentron était avec nous ce soir dans la Libre Antenne. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Restez avec nous. Belle soirée. Il y a une playlist amour qui suit.
Moi aussi, finalement.
Elle vous a convaincu.
Moi aussi. Merci, bonne idée.
À jeudi prochain.
Salut les copains.
Un studio, Dynamique Radio. Voilà. Un studio tout neuf à venir.
Très bien, tous les cas.
On se dit bye bye.
Bye bye.
Au revoir, merci beaucoup pour votre accueil chaleureux.
Merci à vous d'être venus.